Ce qui est beau aussi, c'est de voir comment les paraboles que le Seigneur Jésus a racontées se complètent. Au chapitre 10, nous avons cet homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho et qui est tombé entre les mains des voleurs. Bon, ça, c'est l'homme victime de Satan. Cet homme, il n'a rien fait pour tomber entre les mains des voleurs. Il est victime. Ici, c'est un autre aspect. C'est l'homme qui est agent de sa propre déchéance. Donc les deux côtés se complètent. Et ce qui est dramatique dans cette scène, c'est que pour revenir, il faut que ce jeune homme touche le fond. Et nous avons lu des récits bouleversants de jeunes qui ne sont pas revenus à Dieu, qui avaient peut-être été élevés dans des familles chrétiennes, qui se sont éloignés, et qui ne sont pas revenus à Dieu avant de toucher le fond. Et c'est bouleversant. Dans la drogue, la débauche, et même qui peut toucher l'intégrité de l'esprit et du corps. Et jusqu'à manger là, les bouches que les pourceaux mangeaient, c'est une déchéance navrante. Mais c'est là, au fond, quand il a touché le fond, qu'il se souvient de la bonté de son Père. Et quand il dit à la maison, même les mercenaires, même les serviteurs ont du pain en abondance, je connais mon Père, il va leur donner du pain en abondance. Ah, c'est un moment merveilleux dans l'histoire d'une âme, quand elle, au fond de sa misère, elle se souvient quand même de la bonté de Dieu. Et c'est ce qui va le pousser à revenir dans une énergie qui s'empare de lui par un travail de Dieu, certainement, par un travail de l'Esprit. Mais je me lèverai et je m'en irai vers mon Père. Il y a un moment de décision. Est-ce que quelqu'un parmi nous serait dans ce moment de décision? Peut-être. C'est pas absolument nécessaire de toucher le fond pour revenir. On peut revenir avant. Et d'ailleurs, à ce propos, un frère du plateau, qui était son propre beau-père, Marc Chambon, à Saint-Agrève, quand on était adolescent, nous disait, dans une carrière chrétienne, on a certainement besoin plus d'une fois dans sa carrière de revenir au Père. C'est pas seulement initial. Nous nous éloignons de Dieu, pas forcément très loin. D'ailleurs, des petits retours à Dieu, qui n'en a pas fait? Et peut-être nous sommes venus ce soir dans cette salle pour être invités à revenir au Père. Dans notre vie chrétienne, d'ailleurs, nous avons parmi nous un témoin. Il nous a raconté son témoignage il y a quelques années, élevé dans une famille chrétienne. Il s'est éloigné du Seigneur, de l'Église, de tout, et il a été dans le pays lyonnais pendant 30 ans. Et un jour, il est revenu à son Père céleste et à son Père terrestre, tout à la fois. Même en tant que chrétien, nous pouvons nous éloigner gravement du Seigneur, mais nous aurons toujours un bon accueil. Quand vos pères nous insistaient là-dessus, nous aurons toujours un accueil merveilleux de la part du Père. Nous ne serons jamais repoussés. La preuve, c'est ce que nous allons voir.
Donc, pour avancer un peu, ce fils a un travail en lui-même, et finalement, il connaît son Père quand même un peu plus que le fils aîné. Il connaît un peu plus la bonté de son Père, puisqu'il trouve qu'être serviteur dans la maison de son Père, c'est quand même préférable que la condition dans laquelle il est, et quelque part, il sait que son Père est aussi bon avec ses serviteurs. Il connaît plus le cœur de son Père que le fils aîné. Mais, il ne le connaît pas à fond. Il ne le connaît pas à fond. Et il va proposer à son Père un contrat. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et il lui propose un contrat en trois parties. Je dirai, j'ai péché. J'ai raté ma vie. J'ai loupé le but. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Oui, je me suis comporté comme si j'étais pas ton fils. C'est ce qui veut dire. J'étais fils de mon père, j'aurais dû avoir une vie toute différente. J'ai loupé le but, mais j'ai vécu comme si j'étais pas son fils. Et puis traite-moi comme un de tes serviteurs. Voilà, un contrat en trois parties. Il connaît suffisamment la bonté de son père et il pense être accueilli, mais il pense finir comme un des serviteurs. Et l'accueil du père va être tout différent. Il va lui laisser dire les deux premières parties, mais pas la dernière. Non. Serviteur, esclave, non. Toujours fils, oui. Et il va lui montrer qu'il est toujours fils. Et je crois que c'est l'enseignement, il est là, dans la connaissance du cœur de Dieu, dans la connaissance du cœur du Père. Et le cadet comme l'aîné vont apprendre à connaître le cœur du Père. Le Père a laissé ce fils faire usage de sa liberté. Il y a un travail dans ce fils, mais quand il le reçoit comme son fils. Et je crois que c'est un enseignement profond pour nous. On pêche tous. Est-ce qu'on peut imaginer le plus gros péché qu'on ait pu faire et qu'on est capable de faire? Et revenir à Dieu, et quoi? Être accueilli à bras ouverts. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est le Seigneur qui l'enseigne. Alors, il y a aussi un enseignement dans nos relations fraternelles, quand même. Si on connaît le cœur du Père, on va agir avec nos frères, avec nos sœurs, avec cette connaissance. Et pas s'appliquer la bonté du cœur de Dieu que pour nous et pas pour notre prochain. C'est fondamental. N'oublions pas le contexte dans lequel cette parabole est enseignée. Il y a des gens qui critiquent, qui murmurent. Jésus va leur donner l'explication de son comportement parce qu'il connaît le cœur du Père. Est-ce que nous, dans nos vies individuelles, dans nos familles, dans nos assemblées, on agit en accord avec le cœur de Dieu? Est-ce que nos bras sont tendus? Ou est-ce qu'on repousse? J'ai été frappé, moi, par le témoignage d'une femme américaine de mauvaise vie. De très mauvaise vie. Elle a eu aussi ce retour. Vous savez, les incroyants font aussi le bilan dans leur vie. Elle a eu ce retour sur elle-même. Et elle a cherché partout de l'aide. Et quand on lui a parlé de l'Église, elle a dit non. Ces gens-là me conduisent à me sentir encore plus sale que je ne suis. Est-ce qu'on n'a pas manqué le but? Si notre église locale donne un tel témoignage, il faut qu'on reste pratique. Hein. Ce n'est pas pour enrichir notre connaissance qu'on est là ce soir. C'est pour vivre, pour marcher demain. Le fils aîné va apprendre à connaître le cœur du Père. Il nous faut apprendre à connaître le cœur du Père. Et savoir comment Dieu agit, comment Dieu ouvre ses bras, comment Dieu aime. Et le Père court à la rencontre pour enseigner son Fils. Comme il va sortir pour enseigner le Fils. Il va l'accueillir comme il est en réalité son Fils. Et la robe, et l'anneau, et la sandale vont témoigner aux yeux de tous. Aux yeux de tous. Avant même que la fête soit célébrée, tout est là pour montrer à la face de tous que le Fils est resté Fils à cause de l'amour du Père, à cause de la grâce de Dieu. Eh bien, apprenons le cœur du Père. Apprenons les motivations, les sentiments de Dieu. Et que cela porte un sceau à nos vies individuelles, porte un cachet aussi à notre témoignage et à nos vies collectives. On parle beaucoup de grâce, oui, mais dans la pratique, il y a beaucoup de personnes qui pourraient nous voir, venir nous voir, et individuellement et collectivement, et dire, oui, tu dis bien que Dieu fait grâce, nous voir, regarde mes blessures, regarde comment vous m'avez reçu. Donc, il nous faut être honnête. Il nous faut aussi revenir en nous-mêmes, et puis reconnaître que peut-être, on a enseigné de travers le cœur du Père, que peut-être on a mal compris le cœur du Père. Pour nous aussi, individuellement et collectivement, les bras de Dieu aujourd'hui sont grands. Voilà aussi que le cœur du Père, bien entendu, était là pour penser à son Fils qui était perdu. Mais il fallait aussi qu'il y ait un retour. N'oublions pas cela. Étant revenu à lui-même. Et s'il est revenu à lui-même, c'est pas évident cela, hein, revenir. Pas évident. Vous vous rappelez de Jérémie, on a étudié ce sujet il y a quelques années. Vous vous rappelez de Jérémie, combien il a souffert, ce Jérémie, en voulant faire revenir le peuple, tout le peuple entier cette fois, hein, à l'Éternel. C'était égaré tellement loin que ce pauvre Jérémie, on l'a jeté dans une fosse, enfin bon, vous connaissez l'histoire, étant revenu à lui-même. Combien de prières il y a dû y avoir en amont pour que ce fils reconnaisse qui s'était trompé, étant revenu à lui-même. Il faut faire un demi-tour, clairement, étant revenu à lui-même. Et puis donc, il dit, je me lèverai, je m'en irai vers mon Père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. C'est extrêmement beau, tout cela. Évidemment, pour en arriver là, c'est pas évident du tout. Et il faut encore une fois ce Père admirable, dont tu as rappelé le terme, comme de nos frères nous disaient fréquemment autrefois, Père admirable, qui pensait à son Fils sans arrêt. Alors lorsque nous avons des enfants qui sont peut-être dans des situations peut-être pas aussi éloignées, je ne sais pas, chacun sait bien quelle est la situation de son fils ou de sa fille, ses petits-enfants ou autres, et bien combien nous avons à prier sans cesse. La parole de Dieu nous dit toujours prier sans cesse. Et en même temps, toute chose, rendez grâce. Je te rends grâce, ô Père, de ce que tu es en train de parler à mon fils. Et puis ce fils, il revient. Oh, mais c'est beau. Est-ce qu'il lui dit quelque chose de trop? Pourquoi tu as fait cela ou autre chose? Non. Il l'accueille à bras ouverts.
Lorsque le fils avait les bras de son père autour de son cou, il ne pouvait plus être traité comme un mercenaire. C'était plus possible. Donc, le fait, ce père admirable, il a pris son fils, qui était en haillons. Il était en haillons. Il n'a pas eu peur de serrer son fils contre son cœur en haillons. Et son fils, avec les bras du père autour du cou, ne pouvait plus être traité comme un mercenaire. Ce n'est pas possible. Et on voit à travers tous ces exemples, toute la beauté de ces versets, la grandeur de ce Père admirable. Et le Père va tout de suite lui donner la première chose, il va lui donner toutes les marques du Fils. Une belle robe, un anneau, des sandales. Parce qu'il rentre dans la maison du Père. Et là, on est dans le fait que c'est le Père, il s'est chez lui, c'est sa maison. Et là, il veut être que ceux qui sont dans sa maison soient ainsi revêtus. Et nous voyons bien l'image qu'il y a là derrière, revêtus de cette robe de justice. Christ est notre justice. Nous n'avons rien. C'est Christ notre justice. Mais dans ce Père qui a serré son Fils en haillons, il l'a pris tel qu'il est. Et cela, il nous faut bien insister encore, et j'aime encore insister. C'est la même pensée que celle que nous avons en 2 Corinthiens 5, que l'apôtre Paul rappelle, l'amour de Christ nous est. Il ne s'agit pas de savoir si c'est que l'amour de Christ étreint Paul seulement, non. L'amour de Christ nous étreint tous. C'est-à-dire que nous sommes les objets de son amour, mais étreint, c'est plus que cela. C'est que nous sommes serrés, nous sommes poussés, nous sommes tirés, nous sommes attirés. Et si je manque, si je pêche, s'il y a une défaillance, eh bien c'est cet amour-là qui agit. Cet amour de Christ qui nous étreint, qui va me pousser à revenir, me pousser à confesser, me pousser parce que lui veut, il me veut. Nous lui avons coûté si cher. Il me veut, il nous veut, chers amis. Pensons encore à ce parallèle. D'un côté, nous avons le fils cadet qui a tout vendu, qui a tout dilapidé. Et puis, nous connaissons l'histoire, Matthieu 13, d'un homme qui a tout vendu. Tout vendu ce qu'il avait pour acheter un champ dans lequel il y avait un trésor. Nous savons ce que cette parabole, de qui cette parabole nous parle, du Seigneur lui-même. Un trésor sur l'Église. Le Seigneur a tout donné, a tout vendu pour acheter, pour avoir, c'est racheter son Église qu'il aime. Et alors, ils sont étreints. L'Église est chérie, elle est nourrie, le croyant est étreint. Tel que nous sommes, chers amis, même si nous défaillons, même si nous manquons, le cœur du Seigneur nous étreint pour nous attirer et pour que nous ayons cette part avec lui qu'il veut. C'est ça qu'il désire. Comme le Père désire avoir son Fils chez lui.
Nous avons raison d'insister sur l'accueil du Père, sur les compassions du Père, sur l'amour du Père pour son Fils, sur la grâce du Père. Mais cette attitude du Père a été précédée par la repentance. C'est ce qui est dit dans le premier tableau. Il n'y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent. L'accueil du Père est précédé par la repentance. Repentir, c'est repenser juste sur Dieu. Et là, on voit bien ce qui est dit en Romains 10, je crois, la bonté de Dieu pousse à la repentance. Il pense à la bonté de son Père, donc il se repent. Si Dieu est bon, je peux tout déballer. Et c'est vrai pour le croyant aussi. Si on pense à la bonté de Dieu, à la grâce de Dieu, on peut tout lui confesser. Si on pense que Dieu est dur, on garde tout pour soi. On confesse rien. Mais la confession précède la repentance, la confession précède l'accueil du Père. C'est quand il a dit « j'ai péché ». Et c'est, je crois que c'est vrai aussi par rapport à l'accueil, que nous ayons les mêmes sentiments que Dieu par rapport à d'autres personnes. Parce qu'il y a un exemple malheureux dans l'Écriture. C'est quand David a reçu Absalom, son fils, l'a baisé. On recherchera le passage, c'est soi. C'est il a baisé son fils sans qu'Absalom se repente. Et ça a été un malheur pour David. Donc il ne s'agit pas seulement d'avoir les sentiments de Dieu, de compassion, de pardon, oui, mais il faut que la personne en face se repente. Et c'est vrai aussi pour une personne qui, hélas, l'assemblée locale a dû se séparer de cette personne, eh bien, il faut qu'elle se repente, et après, on la reçoit, on la réhabilite, on lui redonne sa place, comme ici. Et le Père l'appelle son fils d'emblée, tandis à l'autre, au fils aîné, il dira « mon enfant ». Il dira « il n'est pas fils, c'est l'enfant ». Tandis que l'autre, il a sa place, il est fils.
Une remarque à la suite de ce que Jean-Philippe a présenté, c'est le Père qui serre son fils sur son cœur. Si on regarde dans le livre du Deutéronome, au chapitre 21, que les pharisiens connaissaient bien, le fils indocile qui revenait dans la maison de son père, il était apporté aux anciens. Et il était lapidé. Le père qui se précipite vers son fils, et qui le serre sur son cœur, empêchait cela. C'est une image extraordinaire de ce que le Seigneur a fait pour nous sur la croix. Le Seigneur a pris notre place. Le Père se précipitant vers le Fils, il n'était pas possible que ce Fils soit lapidé. Puisque le Seigneur est à la croix, a été sur la croix, eh bien, nous sommes à l'abri du jugement. C'est un premier point. Dans cette parabole, nous avons vu deux fois donner. La troisième fois que nous le rencontrons, c'est le Fils aîné qui dit « Tu ne m'as jamais donné de cheveux ». Le mot de solitude n'est pas employé, mais je pense que pour ces deux fils, il y avait deux solitudes. Lorsque le fils prodigue veut dire dépensier, et juste encore un mot, mercenaire, on le traduirait actuellement par ouvrier. Lorsque le fils prodigue dit, il nous est dit que personne ne lui donnait rien, il est seul, complètement seul. Et à qui il pense? À son père. Je crois que c'est quelque chose qui est important pour nous aussi, bien sûr. On pense beaucoup à l'image de la conversion, mais il y a des moments où nous sommes seuls, nous pensons être seuls, nous croyons être seuls. Et qu'est-ce que Dieu fait? Étant revenu à lui-même, un flash, une pensée, j'ai un père. Pour le second fils, tu ne m'as jamais rien, tu ne m'as jamais rien donné, tu ne m'as pas donné de chevron, il est seul aussi, parce qu'il ne connaît pas le cœur du Père. Il va le découvrir, le Père va lui dire, nous le verrons peut-être après. Mais il y a cette solitude aussi de l'homme qui pense connaître Dieu, qui pense qu'il fait juste, qui pense que parce qu'il accomplit telle ou telle chose, eh bien, c'est bien, mais il est seul aussi. Et le Père va lui dire « Non, tu n'es pas seul ». Paul dira « Je sais qui j'ai cru ». Nous sommes enfants, fils. Est-ce que nous connaissons notre Père chaque jour, un peu plus? C'est facile à dire. Je crois que c'est une leçon importante. Non, nous ne sommes pas seuls. Une dernière pensée qui nous est donnée à propos de Paul, c'est que seul dans sa prison, il a réalisé qu'ils étaient deux. Le Seigneur s'est tenu près de moi. C'est la grande force de notre vie chrétienne. C'est, dans toutes nos circonstances, c'est salutaire. C'est salutaire. Je crois que il y a une leçon pour nous, quel que soit notre état. On a dit tout à l'heure que ces deux fils représentaient les deux parties de l'humanité. C'est vrai. Mais nous avons tous besoin de savoir, même si nous sommes devant Dieu, que nous avons un Père qui nous aime et que tout est à notre disposition.
Il est dit deux fois, Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Le bon ordre est respecté. Qu'est-ce que cela suppose? Cela suppose que dans sa famille, ce jeune homme avait reçu un enseignement conforme à la parole de Dieu. Dieu est mis en avant. J'ai péché contre le ciel et devant toi. Eh bien, tout à l'heure, on a dit que vraiment, nous ne pouvons pas maîtriser nos enfants, quelquefois jusqu'au bout. Mais il n'empêche que l'enseignement que nous donnons à nos enfants, les cantiques que nous leur apprenons, les versets que nous leur avons fait apprendre pendant leur enfance, et moi, j'encourage beaucoup les parents à le faire, et en même temps, celui de prier le Seigneur, eh bien, je crois que ce sont des choses qui demeurent. Et vous savez bien que dans notre vie de chrétienne, souvent des versets nous reviennent à la mémoire. Quand on se lève, un verset de cantique nous vient à la mémoire et quelquefois il nous poursuit toute la journée. Eh bien, je crois que quand il dit, quand ce jeune homme dit qu'il est revenu à lui-même, qu'est-ce que cela veut dire? Il est revenu à ce qu'il avait connu dès son enfance. Eh bien, que les jeunes parents soient encouragés, même quelquefois parce qu'on manque de temps, quelquefois il semble que la journée, c'est trop tard, ou bien quelque chose qui soit là pour leur enseignement. Et si vous lisez le psaume 78, vous verrez combien il est important que nous ne cédions pas ces choses, c'est-à-dire que nous ne les cachions pas, mais que nous les transmettions aux générations qui nous suivent pour qu'un jour, eh bien, peut-être que ça leur sera utile. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que la grâce dans cette parabole cherche et couvre. La grâce couvre, elle habille, elle a pas. Voyez, c'est encore un enseignement vis-à-vis des parents qui auraient un enfant qui sera lettré. Cet enfant reste votre enfant. Et l'essentiel, c'est que la relation soit conservée, où qu'il soit et où qu'il aille, et qu'il sente votre amour. C'est par ce moyen que le Seigneur permettra qu'il revienne peut-être vers lui. Et cet enseignement-là est donné depuis Genèse 3. Qu'a fait Dieu lorsque l'homme a péché? Il a fait des vêtements pour couvrir Adam et Ève, n'est-ce pas? Est-ce pas un effet de la grâce de Dieu après leur manquement de les couvrir? Ces vêtements ont une signification, mais ils ont été couverts. Qu'est-ce qui s'est passé au moment où Noé s'était livré dans sa tente, n'est-ce pas? Il y a un fils qui est sorti au dehors pour dire ce qui s'était passé. Comme fait les deux autres. Ils ont reculé et ils ont couvert leur père. Chers amis, il y a l'enseignement pour nous ici aussi.
Jusqu'à quelle heure? C'est une douleur, hein?
On n'a pas beaucoup parlé encore de notre fils aîné. Mais il y a quand même une phrase, on a parlé de l'accueil du Père, cette immense grâce extraordinaire, il s'engage complètement. Mais il dit aussi des choses. Et avec l'amour, il y a toujours la lumière. Avec la parole de grâce, eh bien, il y a un peu de sel. Parce que le fils, il entend quelque chose. Car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Donc les choses sont dites avec simplicité, mais le fils entend ce que sa vie a vraiment été aux yeux du Père. Ils se mirent à faire bonne chère, donc une fête qui commence, qui ne finit pas. Et puis un fils aîné qui ne veut pas rentrer dans cette fête. Il est dans son orgueil, il est aveuglé un petit peu, il pense qu'il a toujours tout bien fait dans la vie, lui. Et ça l'agace. La grâce de Dieu l'agace. Il y a un autre dans la Bible, c'est Jonas, agacé. Fais-tu bien de t'irriter, avait dit Dieu à Jonas. Même Caïn, dès le début, est agacé que Abel ait l'air d'être agréé, mais Dieu aussi sort. Il fait comme le Père. S'il sort, il dit, mais pourquoi tu t'irrites? Tu peux aussi bien faire. Et en fait, on voit que c'est bien vraiment la parabole du Père, un miracle, c'est la parabole des deux fils. Parce que le Père, il prend tout un temps d'égard et de temps pour le second que pour le premier. On a vu pour le premier, il a couru, on l'a dit, il l'a embrassé, il a vu de loin. Et puis là, le second, eh bien, il va sortir dehors et il va parler à son cœur. Il va lui dire de rentrer à cette fête, d'être aussi dans un état de pardon. Il y a beaucoup de personnes qui se privent parce qu'ils ne pardonnent pas. Et lui, il est invité à rentrer à la fête, à ne pas rester en dehors. J'ai parlé tout à l'heure de la sobriété, effectivement, de la Bible quant à la débauche du premier. Et vous remarquez que celui qui n'est pas très sobre, c'est le second. Le second lui précise, il dit « Oui, il a mangé ton gain avec les prostituées. » Mais en fait, ça c'est son film, il s'est fait son film. Parce qu'en fait, son état d'esprit, c'est un peu le même que l'autre. son état d'esprit, c'était de faire la fête avec ses copains sans le père. C'est ce qu'il voulait faire. Il lui reproche, tu ne m'as jamais rien donné pour faire la fête avec mes copains. Voilà. Et donc, son frère est parti, ben, c'est forcément avec des prostituées. Il s'est fait son fils.
Et pourtant, le père aimait le fils aîné comme le fils cadet. Nous avons dit au début de cette réunion que c'était aussi, il était parlé de la joie de celui qui est trouvé, la joie de celui qui cherche, le berger, la femme. On trouve 6 fois l'expression de cette joie. Et finalement, dans ce chapitre, tout le monde est heureux sauf une personne, justement le fils aîné. C'est le seul qui n'est pas heureux. Et la suite ne nous est pas donnée, suite à la remarque de son père, mais ce qu'il a fait, mais c'est le seul qui n'est pas heureux. Le seul qui n'a pas pardonné. Et là aussi, c'est une leçon aussi pour nous. Si un pardon n'est pas accordé, si un pardon n'est pas donné, eh bien, il reste une racine d'amertume. Et ça, c'est vrai dans nos relations entre frères et sœurs. Le fils aîné, il dit à son père, ton fils, il n'ose pas dire mon frère. Il ne parle pas de son frère, comme si la relation déjà n'existait pas. Il ne s'est pas préoccupé de savoir si son frère allait en venir. Son père devait attendre tous les jours. Tous les jours, il devait attendre pour voir si l'autre frère allait en venir. Voilà donc, il n'a pas pardonné, il n'est pas heureux. Que ceci aussi soit peut-être pour chacun de nous une leçon, lorsque le pardon n'est pas donné, alors il ne peut pas y avoir ni de joie, et il y a des racines qui restent, qui nous attristent.
Et puis, un dernier mot, le fils aîné, il ne comprend pas ce qu'est la grâce. Il se place sur le terrain du donnant-donnant. Je te sers. Et jamais je n'ai transgressé ton commandement et tu ne m'as pas donné. Et ça, c'est un danger qui nous guette aussi. Si, en tant que chrétien, de ne pas vivre de la grâce de Dieu et de nous replacer sur le donnant-donnant comme lui, je te sers, alors tu dois bien me donner. Tu dois bien me donner la santé, la richesse, faciliter mon chemin, puisque je te sers, je te suis dévoué. C'est subtil. Mais quand il dit « Tu ne m'as jamais donné », ah, mais qu'il connaît mal le Père généreux, ce Père qui a donné l'héritage, il ne le connaît pas. C'est une ingratitude terrible. « Tu ne m'as jamais donné ». Vivre de la grâce de Dieu, c'est vraiment la part du chrétien. Nous ne ferons jamais de Dieu notre obligé. Dieu ne nous devra jamais rien. Même après une vie de dévouement en lui, nous serons toujours les débiteurs de Dieu. Et c'est ça la grâce, vivre de la générosité de Dieu tous les jours. Et nous sommes là le dimanche matin parce que Dieu généreux nous a tout donné. Nous venons simplement dire merci.
Juste un petit mot, je voulais dire, j'ai connu il y a 40 ans de ça, à peu près, je pense, un père qui a jeté dehors son fils. On connaît peut-être cela les uns les autres, je ne sais pas. C'est évidemment quelque chose qu'il ne faut pas faire dans la lecture de ce... cette parabole, nous le voyons bien, hein, prier sans cesse, ne jamais jeter dehors son fils ou sa fille. Pour terminer, concernant le fils aîné, on a parlé qu'il n'avait pas de joie, qu'il n'était pas heureux, qu'il ne connaissait pas le cœur du père, mais je crois qu'il y a aussi autre chose à dire. Il n'est pas au bon endroit. Il était où ce fils aîné? Il était dans les champs. Et puis il dit, je te sers. La petite note dit, servir être esclave. Il n'était pas fils. Où il aurait dû être? Dans la maison. Avec la robe, l'anneau, la sandale. Il y avait des choses à faire dans la maison pour le père. Et finalement, l'enseignement de ce chapitre, c'est que les deux sont pas au bon endroit. Ils sont pas au bon endroit parce qu'ils ne connaissent pas le cœur du Père. Et les deux, finalement, usent et de leur liberté et de leur énergie à mauvais escient. Et je crois qu'en terminant ce soir, la question qui doit nous venir à l'esprit, je suis qui ? Je suis qui ? Pas simplement, je pense, dire « Ah, j'ai été, oui, avant ma conversion, ce fils prodigue. » Non, je suis qui ? Est-ce que je suis vraiment fils ? Bon, c'est un autre sujet, mais un sujet médité. À méditer, c'est quoi être fils de Dieu aujourd'hui? C'est quoi vivre comme un fils, comme une fille pour Dieu, de Dieu aujourd'hui? C'est quoi le servir comme un fils et comme une fille aujourd'hui? Est-ce que c'est aller au champ, trimer, et puis faire des reproches à Dieu? Non, il n'y a pas de joie là. Et on sait très bien, et on rencontre beaucoup de personnes qui s'épuisent dans la religion, qui s'épuisent dans le faire. Leur identité de fils ne dépend pas de ce qu'ils font, ne dépend pas de la conduite du fils cadet, ne dépend pas de l'œuvre du fils aîné. Ils sont fils, et ils avaient à vivre en tant que fils. Et tous les enseignements de la parole convergent, et les épîtres convergent vers ce fait que nous avons cette identité de fils et fille, et que nous avons à marcher en conséquence. Parfois, nous sommes le fils cadet, on ne connaît pas le cœur du Père. Parfois, et très souvent, nous sommes le fils aîné. Alors nous murmurons, nous critiquons, nous sommes pas eux. Mais Dieu vient, bienvenue, il a fait encore ce soir.
Deux secondes. Je crois que les précisions qui nous sont données dans le texte sont importantes. Pour la brebis, elle est trouvée. Pour la drachme, elle est trouvée. Pour le fils, il est retrouvé. Dans le cœur du Père, il était là, même s'il était mort. À son fils qui y est revenu, donc au fils prodigue, il l'appelle son fils. À son aîné, il appelle mon enfant. C'est quelque chose d'encore plus fort. Et pourtant, nous ne pensons peut-être pas que le terme de enfant qu'il emploie est quelque chose qui peut être choisi à propos d'une traduction. Non, là. Le texte est très précis. Mon enfant. Et Paul dira, voyez de quel amour le Père nous a fait don, que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est Jean qui le dira.
Et beaucoup de frères et de sœurs ont pensé que si le récit se terminait là, avec de telles paroles, mon enfant, tu es toujours avec moi, tout ce qui est à moi est à toi, avec de telles paroles, peut-être bien que le fils a eu un retour vers son père.
Je propose le cantique 171.
d'amour que te rendre au bon Père. 62, 3, 1, 4 et 5. Oui, nous avons au ciel.
Whoa.